morning edition from NPR News.
MCT Sandin the House.
Halim Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La guerre côté Israël et les États-Unis ne baisse pas en intensité. Elle touche toujours les pays du Golfe. Elle redouble au Liban. Et l'Europe marche sur des œufs. Elle le prouve encore cet après-midi après une déclaration assez tiède des ministres des Affaires étrangères. Nous y reviendrons. Une Europe qui ne parle pas d'une seule voix, ça, on a l'habitude, mais elle donne aussi un sentiment d'incohérence. On va essayer de mettre tout ça en ordre ce soir. Remettre le monde à l'endroit, c'est surtout la mission de Frédéric Seitz qui nous dira à ce stade qui sont les perdants et les gagnants après 6 jours de guerre en faisant le tour du monde. Le reportage ce soir va vous aider à mieux comprendre pourquoi on entend si peu d'Iraniens sur nos antennes. Et c'est pas seulement à cause d'Internet dont il ne reste qu'un filet. Caroline Félix, qui passe ses journées à essayer de joindre Téhéran, va vous raconter comment elle travaille. Sous les radars, autrement appelé en ce moment, et pendant ce temps, loin du Moyen-Orient, vous verrez grâce à Guillaume Audat que la Pologne a durci le ton avec les réfugiés ukrainiens qui perdent ce jeudi leur statut spécial. Et puis juste avant 19h, la tech la première de Stéphane Jourdain nous ramène à une dure réalité, celle de l'intelligence artificielle et ses progrès dans le langage. Un dialogue avec Mazarine Pinjot qui regarde l'IA en philosophe. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. Bonsoir Yves Bertoncini.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant à l'ESCP Business School et au Corps des Mines. Vous êtes consultant en affaires européennes. Je disais, une réunion cet après-midi des ministres des Affaires étrangères autour de Kaya Kallas. Le communiqué qui en sort est plus que sobre. Il se contente de réitérer la solidarité de l'Europe avec les pays du Golfe. Il parle aussi d'échanges avec l'Ukraine qui sait stopper les drones. On y viendra. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est quand même un peu en parfait décalage, y compris avec le déroulé de la guerre et avec son évolution? On n'arrive pas à quitter le siège arrière, c'est le moins qu'on puisse dire ou pas.
Oui, mais les Européens ne voulaient pas être sur le siège avant dans cette guerre. Et ils n'ont pas été informés, ils ne se sont pas associés directement aux frappes militaires américano-israéliennes sur l'Iran. Donc on verra ce que donneront ces frappes. Elles font déjà suite à une première campagne qui avait eu pour objectif d'éradiquer, semble-t-il, la menace nucléaire iranienne, sauf que pas vraiment. Donc deux nouvelles frappes avec des objectifs un peu obscurs sur un potentiel changement de régime, une durée plus ou moins longue. Et donc les Européens qui ne se soient pas embarqués dans cette galère, je dirais que c'est assez logique et bienvenu, même si évidemment ils ne sont pas complètement tristes de voir Ali Khamenei renversé et qu'ils craignent surtout les conséquences déstabilisatrices pour toute la région et pour eux.
Et ça, c'est effectivement le langage qu'ils tiennent. Moi, j'ai l'impression d'une sorte de prise au piège. Regardez, aujourd'hui, on sait que l'Espagne dit non depuis le début, mais s'agissant des frappes, du bout des lèvres, donc la plupart des pays européens, on y reviendra peut-être dans le détail, disent oui, malgré la violation du droit international, ils le mettent aussi dans leur phrase, en admettant aussi la faute de l'Iran, mais dans le même temps, regardez, aujourd'hui, par exemple, le Liban, on appelle à la France, le Liban qui est frappé par Israël, pour éliminer le Hezbollah, on le sait, mais qui est dans le camp de ce que l'Europe a approuvé précédemment. On a l'impression de quelque chose d'assez schizophrénique aujourd'hui pour les Européens.
Oui, mais absolument. Parce que de toute façon, la politique étrangère et de sécurité commune, hein, c'est un vieux projet lancé par le traité de Maastricht, ça reste, j'allais dire, un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. C'est encore plus vrai quand deux acteurs comme les États-Unis d'Amérique et les Israéliens sont dans la danse, si je puis dire. Parce que on est gêné vis-à-vis des Américains qui, pour l'essentiel des Européens, demeurent le protecteur historique, même si très peu fiable, mais en même temps indispensable dans ce qui est existentiel pour nous, c'est-à-dire la menace russe en Ukraine. Et de l'autre côté, sur Israël, il y a toujours eu de la part des Européens une sensibilité extrême, et en particulier chez nos voisins allemands, qui sont tétanisés par les atrocités nazies passées, et qui, sur un sujet comme celui-ci, sont donc tout à fait gênés. Donc, si vous voulez, là, on est dans le summum de ce qui divise les Européens, ce qui n'empêche pas qu'ils essayent d'afficher leur unité dans les suites qui pourraient être données à ce conflit, et puis dans les conséquences immédiates qu'il faut gérer.
Ils essayent, comme vous dites, mais c'est intéressant, le summum de la division qu'on peut afficher. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, encore une fois, de très contradictoire entre à la fois envoyer des navires dans le Golfe et en même temps tenter potentiellement de retenir le bras d'Israël sur le sud du Liban?
Non, je crois que ce qui est demandé par les Européens, c'est de limiter les conséquences déstabilisatrices de cette guerre. Les Européens ont quand même payé pour savoir que les interventions militaires, notamment américaines, qu'il s'agisse de l'Irak, de l'Afghanistan, n'ont rien résolu du tout, et même ont créé le chaos. On l'a appris en France jusqu'à dans les salles de concert en 2015. Les Européens, la France, le Royaume-Uni sont allés déstabiliser et renverser le régime de Muammar Kadhafi. On a vu ce qui s'en est suivi, et donc qu'ils mettent en garde Israël et les États-Unis, c'est à peu près logique. En revanche, militairement, ils ne sont pas mêlés directement à ces interventions. Certains pays, comme la Roumanie, soutiennent en prêtant des bases aux États-Unis. L'Espagne refuse.
L'utilisation des bases européennes, il n'y a plus seulement que la Roumanie. Là, il commence à y avoir du monde.
Oui, mais par exemple, la France a redit qu'elle ne prêterait pas ses bases dans la région, mais qu'à Istres...
Elle a envoyé le Charles de Gaulle.
On en vient à cela. C'est autre chose, ça. Vous avez mentionné la réunion aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il se trouve que c'était aussi une réunion conjointe avec les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe.
C'était ça, l'idée.
Nous avons un accord depuis 1988. La France a des bases dans la région, en particulier aux Émirats arabes unis. Il y a des ressortissants dans la région. Que la France, qui, comme tous les Européens, s'oppose aux frappes iraniennes dans la région. Que la France déploie des troupes là-bas, à la fois pour sécuriser ses bases, prêter assistance à ses alliés du Golfe, sécuriser et parfois aussi évacuer ses ressortissants, c'est tout à fait logique, mais c'est un registre militaire distinct de celui qui consiste à attaquer l'Iran militairement.
Qu'est-ce qu'on préserve quand même, à votre avis, en ne tournant pas le dos à ces frappes, en ne faisant pas comme l'Espagne, par exemple, majoritairement, parce que c'est les seuls à avoir dit non réellement? Qu'est-ce qu'on préserve? Est-ce que, en creux... On peut parler d'Ukraine dans un instant, si vous voulez. C'est ça qu'on est en train de préserver, en fait. Notre relation avec les États-Unis, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer demain, probablement en Ukraine.
Voilà, exactement. Ce qui est vraiment délicat pour les Européens, c'est qu'encore pour un instant, peut-être quelques temps, ils ont besoin du protecteur américain en Ukraine, même s'il s'est dérobé depuis Trump. C'est les Européens qui font l'essentiel de l'effort. Ils ont, cela dit, toujours besoin, pour nombre de pays d'Européens, du protecteur américain. Pour eux-mêmes, parce que tous les Européens n'ont pas une dissuasion nucléaire comme la France, et la France a bien fait de commencer à essayer d'associer nos voisins européens à cette dissuasion, parce que sinon, ils sont dans un trouble existentiel face à la menace russe, alors que la menace iranienne pour les Européens était tout à fait virtuelle.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que là, à l'instant, c'est une dépêche qui tombe et qui cite Politico, et qui dit... Trump presse Zelensky de conclure un accord et assure que Poutine y est prêt. Il n'y a jamais de hasard dans la concomitance avec ce genre de déclaration et ce qui se passe en ce moment de l'autre côté du monde, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Il y a quelque chose de la part de Trump qui est en train de dire « il va falloir se dépêcher avec cette autre guerre parce que j'en ai une autre sur le feu ». C'est ça qu'on entend.
Oui, c'est possible, mais ça, c'est aux Ukrainiens de décider de ce qu'ils peuvent faire.
C'est bien le rôle qu'ont les Européens là-dedans, c'est pour ça que je vous pose la question.
Les Européens doivent adopter un 20e train de sanctions contre la Russie. Ils doivent déployer 90 milliards d'aides aux Ukrainiens très rapidement. Ils s'y sont engagés. Et par ailleurs, du point de vue militaire, il est vrai que leur assistance est moindre. Et Zelensky a déploré d'ailleurs qu'il y ait eu plus de missiles lancés par les États-Unis et Israël en quelques jours que dans toute la guerre d'Ukraine depuis l'invasion russe.
Exactement. Et maintenant, d'ailleurs, les Ukrainiens sont même prêts à expliquer, à aider, à intercepter un certain nombre de missiles. Une dernière chose avant qu'on aille rejoindre Sébastien Maher, parce que je voudrais qu'on aille faire un tout petit aller-retour à Berlin. Est-ce que Trump, à l'occasion de cette guerre, celle-là, est en train d'opérer une sorte de tri entre les bons et les mauvais Européens? Et ça augure de quoi?
Écoutez, ça rappelle furieusement la guerre d'Irak en 2003. À l'époque, c'était George Bush Jr., Donald Rumsfeld qui avait parlé de la vieille Europe versus la nouvelle Europe. Et d'où la France, à l'époque, nous avions à juste titre, était contre cette invasion, attaque sur le régime de Saddam Hussein, qui soi-disant avait des armes nucléaires qu'il ne possédait pas. Ce qu'il faut relever, c'est que c'est plutôt aujourd'hui l'Espagne qui joue le rôle de leader du camp du non, et que les Allemands sont, eux, beaucoup plus gênés, parce qu'en 2003, Gerhard Schröder était tout à fait opposé à la guerre d'Irak, alors que Friedrich Merz est allé jusqu'à, dans le bureau ovale, dire que il n'était pas favorable, mais qu'il pouvait comprendre, parce que lui, évidemment, en tête sa sécurité et celle de l'Ukraine.
Bonsoir Sébastien Maher.
Bonsoir à tous.
Et vous êtes pile dessus, vous êtes à Berlin et tout le hiatus, en effet, c'est ça, approuver la guerre en Iran pour conserver la sécurité, sur un autre terrain. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez comment cette scène assez hallucinante quand même de Merz qui regarde ses chaussures pendant que Donald Trump est en train de dire du mal de l'Espagne, comment est-ce que tout ça a été perçu et vu par l'Allemagne?
Ouais, du mal de l'Espagne et du mal de la Grande-Bretagne aussi. Et bien, la presse allemande, elle n'est pas franchement tendre aujourd'hui à l'égard du chancelier, à qui les commentateurs reprochent de s'être laissé complètement endormir par les compliments de Donald Trump, qui a qualifié Friedrich Merz d'ami, qui a salué son travail, sa popularité, qu'il a brossé dans le sens du poil. La presse qui ne comprend pas la passivité du chancelier, trop silencieux, trop respectueux, effectivement, qui ne réagit pas quand Donald Trump s'en prend à la Grande-Bretagne et qui ne bronche pas non plus quand le président américain attaque l'Espagne et menace de rompre les relations commerciales. Pire, Friedrich Merz renchérit en disant qu'effectivement l'Espagne devrait dépenser plus pour la défense. Les médias allemands dénoncent une forme de déloyauté, de soumission du chancelier. Alors à sa décharge, il faut dire que pour cet entretien qui était prévu de longue date, Friedrich Merz s'était plutôt préparé à parler guerre en Ukraine et droits de douane que du conflit en Iran, et que son entourage était très soucieux aussi d'éviter un scandale comme l'humiliation vécue l'an passé par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans ce même bureau ovale. Le moins que l'on puisse dire, Fabienne, c'est que Friedrich Merz n'a pas vraiment pris de risque face au président américain. La presse a fait les calculs. Lors de l'entretien, Donald Trump a monopolisé 90-95% du temps de parole.
Alors, le chancelier, paraît-il, a aussi échangé avec Trump après, loin des caméras, en disant qu'il avait corrigé le tir. C'est vrai, ça ?
Oui, c'est ce que dit en tout cas le porte-parole du gouvernement allemand. Lors du déjeuner avec le président américain, Friedrich Merz a semble-t-il, tenté de mettre certaines choses au point. Il s'est peut-être rendu compte de son erreur. À huis clos, il a fait savoir, ou il aurait fait savoir à Donald Trump qu'une guerre commerciale contre l'Espagne reviendrait à sanctionner l'ensemble de l'Union européenne. Et selon le porte-parole du gouvernement, le chancelier s'est cette fois montré très clair.
Est-ce qu'on peut justement et rapidement, Sébastien, redonner la ligne, la position allemande dans ce conflit, là pour le coup avec l'Iran, qui est finalement pas si loin de la nôtre, non ?
Non, elle est assez proche. Le ministre de la Défense l'a répété hier soir encore. L'Allemagne ne participera pas au conflit. Boris Pistorius fait du respect du droit international un principe suprême. Il affirme, c'est un message à Israël et aux États-Unis, que les conflits ne peuvent se résoudre uniquement par la force. La position du chancelier est, on va dire, un peu plus ambiguë. Il affirme, je cite, que l'Allemagne ne donnera pas de leçons sur la légalité de l'opération contre l'Iran. L'Allemagne qui a érigé, votre invité le rappelait, la sécurité d'Israël au rang de raison d'État. Mais comme Emmanuel Macron, comme le Britannique Keir Starmer, effectivement, le chancelier se dit prêt à mener des actions défensives nécessaires et proportionnées. Là encore, je cite, que signifie cette formule ? Berlin explique qu'il s'agit uniquement d'assurer la protection des soldats de la Bundeswehr, l'armée allemande dans la région, où des bases militaires allemandes en Irak et en Jordanie ont été prises pour cible par l'Iran.
Et merci beaucoup, Sébastien Baer. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Bertoncini, que c'était effectivement autour de cette histoire d'Iran qu'on avait vu les peut-être les plus grands écarts en fait, d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on est bien sûr d'avoir préservé notre soutien à l'Ukraine et le soutien américain à l'Ukraine en disant oui à la guerre en Iran ? Et est-ce que le sous-texte n'est pas uniquement là, y compris dans ce qu'on entend de Friedrich Merz ?
Mais moi, je n'ai pas entendu un très grand oui européen à la guerre en Iran. Il n'y a pas de non à la guerre en Iran, parce qu'encore une fois, on ne voulait pas qu'il y ait du nucléaire dans les mains des mollahs iraniens. Nous, on y était parvenus par des voies plus diplomatiques. Maintenant, les Européens sont plus gênés qu'autre chose avec ces interventions dont ils guettent les conséquences. Et donc, effectivement, ils vont déployer des moyens militaires pour sécuriser leurs bases, leurs concitoyens sur place, pour aussi protéger la sécurité maritime, parce que le détroit d'Hormuz et tout ce qui s'ensuit. Et là, il y a des missions européennes, à Spides notamment, et c'est concret. Parce que c'est important pour nous que le commerce international puisse se poursuivre. Vous allez en parler lors du téléphone sonne, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. D'abord pour nous, Européens. Je crois que maintenant, on va attendre de voir ce que donnent ces frappes, ces interventions militaires qui, sans troupes au sol, ont très rarement quand même conduit à un changement de régime qui serait souhaitable, bien sûr, dans l'absolu, mais qui est loin d'être acquis.
Toute dernière question pour vous, très rapidement. Alors, je ne vais pas vous transformer en spécialiste militaire, Monsieur Bertoncini, mais on a envoyé le Charles de Gaulle. Si d'aventure un missile touchait un bâtiment aussi important que ça, est-ce que ça implique que nos amis européens doivent répondre et est-ce que ça nous embarque dans quelque chose de très différent ?
Ça, c'est bien sûr. Il y a d'abord les Français répondraient. Ça serait dans l'hypothèse un missile iranien, très probablement. Un missile iranien a frappé une base britannique à Chypre. Il y a des drones qui se sont arrêtés. Il y a un article dans le traité de l'Union européenne, l'article 42.7, qui pourrait être invoqué. Donc la France riposterait tout d'abord face à un adversaire quand même très affaibli, l'Iran. Et puis les alliés européens seraient susceptibles de lui prêter assistance.
Je vous la lis au fur et à mesure. L'Iran n'a pas l'intention à ce stade de fermer le détroit d'Hormuz, c'est ce que dit le chef de la diplomatie, c'est important, y compris après ce que vous venez de dire, parce que le détroit d'Hormuz, c'est non seulement un endroit stratégique, mais c'est aussi peut-être la porte de négociation qui concerne tout le monde. Je vous remercie beaucoup. beaucoup, Monsieur Bertoncini, d'avoir été avec nous ce soir. La suite, c'est vous, Frédéric Seyss, et vous remettez le monde à l'endroit.
Les livraisons de pétrole et de gaz, précisément paralysées au Moyen-Orient, dans le monde, qui sont les gagnants et les perdants de cette situation.
Et c'est juste après ça. Dovelis Pelsong, un Irlandais dans la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse.
C'est vrai, c'est tout.
Le 18-20.
Et décidément, on ne parle que de lui. Le détroit d'Ormuz, au large de l'Iran, a été déclaré cet après-midi zone de guerre par la Fédération des transporteurs maritimes. Les livraisons de pétrole et de gaz y sont donc paralysées. 20% des hydrocarbures, Frédéric, achetés dans le monde, transitent par ce détroit d'Ormuz. Alors économiquement, cette situation va faire des perdants et des gagnants. Et vous la détaillez pour nous.
Oui, on va dézoomer un peu, Fabienne, pour comprendre. Alors, premier perdant incontestable dans cette région, d'abord, le Qatar. À lui seul, il représente un peu moins d'un quart des exportation mondiale de gaz naturel liquéfié, autrement dit le gaz transporté par bateau. Sa production est totalement à l'arrêt parce que l'Iran bloque le détroit, mais aussi a frappé l'industrie gazière au Clafane. Alors dézoomons encore, si le Qatar ne produit plus, quels sont les pays les plus pénalisés ? L'Europe s'en sort relativement bien, au moins par comparaison. Le Qatar n'est que notre quatrième fournisseur. Seuls 6% du gaz que nous consommons passe par le détroit d'Ormuz. En revanche, l'Asie est beaucoup plus pénalisée. 80% des hydrocarbures qui transitent par Ormuz sont destinés aux pays asiatiques. C'est particulièrement sensible pour le Japon, qui est totalement dépendant des pays du Golfe. D'ailleurs, quelques heures après le déclenchement de la guerre samedi dernier, la diplomatie japonaise a publié un communiqué, certes pour appeler à la désescalade, mais surtout pour dire attention à notre propre sécurité énergétique. Le tableau est à peu près le même pour la Corée du Sud.
Et la Chine ?
Et la Chine, elle est certes le premier client du pétrole iranien, mais la Chine dispose de réserves massives de charbon qu'elle peut utiliser pour faire tourner ses centrales, sans parler des énergies renouvelables, notamment le solaire, avec des installations massives ces dernières années. En revanche, son voisin peut être plus inquiet, l'Inde. La moitié du pétrole consommé par les Indiens arrive par le détroit d'Ormuz, premier fournisseur les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Et cette dépendance s'est accrue ces dernières années. Pourquoi ? Eh bien parce que Donald Trump a fait pression sur les Indiens pour qu'ils arrêtent d'acheter du carburant aux Russes. New Delhi s'est donc tourné vers le Golfe pour ses besoins en pétrole, mais le conflit au Moyen-Orient, évidemment, pourrait changer la donne.
Voilà, ça veut dire que la Russie fait partie des gagnants économiques.
Oui, elle peut espérer écouler ses stocks qui ne trouvaient pas toujours preneur ces derniers mois à cause des sanctions occidentales. L'agence de presse Bloomberg a identifié plusieurs pétroliers de la flotte fantôme russe qui ont livré les ports indiens ces tout derniers jours. Le prix du pétrole russe a augmenté, signe d'une demande supplémentaire. En une semaine, le prix de ce bas barils de brut russe, ce qu'on appelle l'Urals, est passé de 55 à 70 dollars. L'autre gagnant économique de la période, eh bien, ce sont les États-Unis. D'abord parce qu'ils sont autosuffisants en énergie. Le gaz, le pétrole, ils en ont chez eux. Pas besoin d'importation et donc pas d'augmentation drastique des factures. Les Américains vont même pouvoir en vendre plus à l'étranger, même si, attention, les terminaux américains tournent déjà à pleine capacité. Alors, quelle leçon tirer de tout cela ? Eh bien, peut-être celle de l'indépendance énergétique. Si on remonte un peu dans l'histoire, après le choc pétrolier de 1973, les Européens avaient compris qu'il ne fallait pas dépendre des autres pour son énergie. Ils avaient construit des centrales nucléaires, puis des renouvelables. Alors, la crise que nous vivons pourrait accélérer la prise de conscience, la nécessaire sortie des hydrocarbures. Voilà peut-être un peu d'espoir dans ce monde de brut, de pétrole brut, bien sûr.
Allez, merci beaucoup Frédéric. C'est le choc économique ou pas d'ailleurs et les conséquences pour nous très directement. On en reparle tout à l'heure, ce sera dans Le Téléphone Sonne, le reportage. Et un peu particulier le reportage ce soir dans Un jour dans le monde. On aimerait beaucoup vous faire entendre des voix iraniennes en Iran, ici et dans tous les journaux de France Inter d'ailleurs. Vous en entendez très peu et on voudrait justement vous embarquer ce soir pour vous expliquer pourquoi et comment en fait on fait pour avoir ce genre de témoignage direct dans cette guerre-là de la part de ceux qui sont littéralement sous les bombes. Bonsoir Caroline Félix.
Bonsoir.
C'est votre travail d'aller chercher ces témoignages, Caroline. Vous ne faites que ça de vos journées. La pêche n'est pas forcément miraculeuse. D'abord, tout simplement, Internet en Iran au moment où on se parle, c'est quoi 1% de ses capacités?
Oui, depuis samedi matin, c'est blocus Internet dans quasi tout le pays. Ça concerne aussi la téléphonie mobile et la téléphonie fixe. Et les VPN, ces fameux réseaux privés virtuels que les Iraniens ont l'habitude d'utiliser pour contourner les restrictions, eh bien, eux non plus, ils fonctionnent quasiment plus. Donc c'est très, très rare d'avoir des témoignages. Et précisons que les Iraniens sont assez habitués à cette situation, puisque c'était déjà le cas en janvier pendant la répression et aussi en juin, pendant la guerre des 12 jours.
Alors en revanche, les Iraniens entre eux, si j'ose dire, en Iran, peuvent prendre des nouvelles les uns des autres.
Oui, parce que le réseau domestique interne, les messageries officielles, elles fonctionnent un peu mieux, elles sont très surveillées, donc on donne des nouvelles, mais on ne donne pas son avis sur ces messageries. C'est vraiment les contacts vers l'étranger qui sont quasi impossibles, et pour ça, c'est un peu celui qui est le plus... c'est un peu à celui qui sera le plus habile en informatique, trouver le bon VPN, connaître quelqu'un qui a le terminal Starlink qui coûte très cher, mais avec lequel on va pouvoir se connecter au satellite et donner des nouvelles.
Alors exemple. Vous, Caroline, pour toucher les Iraniens, vous passez par quel canal? Vous faites comment?
Alors nous, on a comme point de départ, on a pris la diaspora en France. Ce week-end, on est allé à 4-5 journalistes à des manifestations à Paris. On a pris des contacts, on les a gardés, on les a entretenus et on demande à ces personnes de nous transférer les nouvelles qu'ils ont de leurs frères, de leurs voisins, de leurs belles-sœurs. On les relance depuis 3 jours, mais c'est assez peu fructueux. On a souvent des messages comme « j'essaye, mais vous savez, le débit est très lent en Iran ». Donc on a dû lancer une vingtaine de personnes et moi j'ai reçu 3-4 témoignages sans son, parce que les vocaux, ça ne passe pas, vous l'avez compris. Et puis ça fait peur d'être identifié, même en brouillant la voix. Cette peur, il faut le dire, elle est aussi présente sur place. On a des journalistes qui sont allés à la frontière turco-iranienne. Ils ont interrogé des Iraniens qui quittaient le pays, mais même eux ne voulaient pas témoigner. Faut quand même rappeler le contexte, cette peur, elle est justifiée. Cet automne, la loi en Iran s'est encore durcie pour ceux qui parlaient à des médias étrangers.
Et c'est pour ça que la plupart des témoignages que vous avez recueillis sont des témoignages écrits, donc vous le disiez, sur lesquels nous mettons une voix, comme par exemple Ali, 39 ans, qui habite à Téhéran.
Je suis partagé. Nous sommes sous pression, mais nous gardons espoir en l'avenir. Nous attendons la fin de cette guerre pour parvenir à une situation stable, à un Iran libre. Nombre d'Iraniens, moi y compris, n'aurions pas peur de mourir dans ce contexte si notre mort signifiait la liberté de l'Iran et une vie meilleure pour les générations futures.
Et c'était Omar Waman donc, qui lisait ce témoignage. Parfois, gros coup de chance, Caroline, quelqu'un envoie enfin un message vocal. Celui-ci vous a été envoyé il y a 2 petites heures à peine. Et dites-nous qui on va entendre.
Eh bien, on va entendre Ava, une étudiante de 24 ans. Elle habite à Téhéran. Elle s'y connaît en informatique. Elle a donc réussi à avoir un VPN qui fonctionne, qui est performant. Je lui ai envoyé un message hier. Elle m'a répondu donc presque 24 heures après. Je lui ai demandé comment elle vivait cette guerre. Et elle a un avis un peu différent que le témoin qu'on vient d'entendre.
Les explosions font partie du quotidien depuis samedi. Je dois rassurer mon petit frère de 7 ans qui est réveillé la nuit par les détonations. J'entends les gens qui n'habitent pas en Iran soutenir la guerre, mais moi, je n'en veux pas. C'est la deuxième fois qu'on est attaqué en moins d'un an, et je veux que mon peuple décide lui-même l'avenir du pays.
Et voilà pour le témoignage d'Ava, qui est précieux, hein, parce que, autre précision, les auditeurs se demandent peut-être pourquoi on ne s'appuie pas sur des vidéos, hein, qui sont nombreuses sur les fils WhatsApp, sur les réseaux. Eh bien, c'est que parfois, elles sont truquées par IA. On l'a vu notamment en janvier, pendant les manifestations en Iran.
Et ce sont là, bien sûr, ce vocal, c'est nous qui l'avons anonymisé pour protéger, évidemment, la sécurité de Ava. Caroline Félix, vous retournez dans votre antre, passez des coups de téléphone, je vous remercie beaucoup et à très très vite, bien sûr. La suite dans Un jour dans le monde, c'est vous Guillaume Auda et vous allez chercher l'autre actualité sous les radars.
Direction le Royaume-Uni où le mari d'une députée travailliste a été arrêté pour espionnage au profit de Pékin.
Et la tech, la première de Stéphane Jourdain, un dialogue avec Mazarine Pinjot ce soir qui regarde l'IA non sans crainte mais en philosophe. Allez, à tout de suite, on se retrouve juste après Claude Fontaine. Concha do Mar, c'est le titre. Il nous fait voyager à la frontière entre les yéyés et les tropiques brésiliennes. Vous allez voir, c'est le choix de Djoubaka. Ça nous a fait du bien, Claude Fontaine, Concha do Mar. Allez, on replonge, c'est sous les radars. Et Guillaume Auda. Guillaume, la Pologne durcit le ton avec les réfugiés ukrainiens qui perdent ce jeudi leur statut spécial.
Ils sont environ 1 million, les Ukrainiens, à être entrés en Pologne il y a 4 ans en tant que réfugiés de guerre. 4 années durant lesquelles ils ont bénéficié d'un statut spécial, accès au système de santé polonais, accès aux aides sociales, droit au travail immédiat, éducation gratuite pour les enfants. Tout cela, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, les Ukrainiens sont considérés comme tous les autres résidents étrangers. Par exemple, sauf à cotiser au système public ou souscrire une assurance, la plupart d'entre eux ne pourront plus bénéficier de soins gratuits. Ce virage porte la marque du nouveau président, l'ultra-conservateur Karol Nawrocki. Il avait fait campagne en multipliant les attaques contre les réfugiés ukrainiens et sur un mot d'ordre simple, les Polonais d'abord. Alors il est vrai que l'opinion publique s'est nettement refroidie. Le soutien aux Ukrainiens est tombé de 94% au début de la guerre à 46% aujourd'hui, un peu comme si la mémoire du passé continuait à peser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 100 000 Polonais avaient été massacrés par des nationalistes ukrainiens.
Le gouvernement a été consistant et unambiguous dans notre assessment que la Chine présente une série de threats
to the United Kingdom.
Au Royaume-Uni, encore un scandale d'espionnage chinois qui éclabousse le milieu politique.
Et en l'occurrence, une députée travailliste dont le mari a été arrêté puis relâché ce jeudi, mais relâché sous caution, c'est dire à quel point les charges qui pèsent contre lui sont sérieuses. L'homme qu'on a entendu avant vous, Fabienne, c'est le ministre de l'Intérieur qui, une fois de plus, a été sommé de s'expliquer devant la Chambre des communes. Pourquoi ? Parce que le suspect dans cette histoire, le mari de cette fameuse parlementaire, est soupçonné avec deux autres individus d'avoir, je cite, « aidé un service de renseignement étranger » possiblement chinois, à recueillir des informations. Alors, lesquelles, me direz-vous, c'est évidemment toute la question à ce stade. Une piste tout de même, la députée travailliste dont le mari est soupçonné fait partie de la commission des affaires intérieures, commission ultra sensible au Royaume-Uni qui traite, entre autres, je vous le donne en mille, des ingérences et des menaces venues de l'étranger. Cette nouvelle affaire, elle tombe mal pour le Premier ministre Starmer. L'opposition ne cesse de l'accuser de naïveté face à Pékin, alors que le MI5 alerte sur les tentatives répétées d'infiltration chinoise, tandis que Londres cherche à maintenir, voire sauver, ses relations économiques avec la Chine.
En Bolivie, Guillaume, l'histoire d'un crash, du crash d'un avion qui, une semaine après, vire à la panique monétaire.
Ce qu'on a entendu là, juste avant vous, ce sont des Boliviens qui, il y a une semaine, en effet, se sont précipités sur le site d'un crash tragique, 24 morts, un crash improbable, celui d'un appareil qui transportait 53 millions d'euros en billets de banque. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. 30% de la somme a été dérobée par des villageois sur les lieux de la catastrophe. Faut imaginer des paysages, des routes, des arbres truffés de grosses coupures. La banque centrale s'en est évidemment mêlée. Elle a annulé temporairement la validité des billets concernés, leur numéro de série, ceux qui étaient dans l'avion, numéro de série. Et c'est là tout le problème qu'on retrouve aussi dans tous les porte-monnaies de Bolivie depuis leur mise en circulation il y a plusieurs mois, mise en circulation de ces billets. Conséquence, des commerçants refusent les billets avec la lettre B, des Boliviens se ruent dans leur banque pour tenter de se les faire échanger, ces billets. Panique et méfiance se sont installés dans un pays où le cash domine l'économie et au fond, comme partout, l'argent n'a pas d'odeur.
Guillaume Oda, merci beaucoup. La Tech la première, la chronique du jeudi sur l'IA, garantie sans IA. Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
Et cette semaine, Stéphane, vous vous intéressez au langage et à ce qui différencie l'homme de la machine quand la machine ou l'intelligence artificielle parle exactement comme l'homme.
Eh oui, l'écrivaine Mazarine Pinjot s'est plongée dans le monde merveilleux des IA génératives et elle publie Inappropriable, ce que l'IA fait à l'humain. Sa thèse centrale, c'est que le langage n'est plus le propre de l'homme.
La question est, si le langage de la machine est le même, puisqu'il est absolument identique que le langage de l'être humain, comment on va pouvoir distinguer l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle ? C'est le langage qui pouvait être l'indice d'une intelligence humaine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est aussi l'indice d'une intelligence artificielle.
Car les IA singent le langage humain presque parfaitement, car il y a tout de même une spécificité du langage que lui repose sur le réel.
Le langage de l'intelligence artificielle générative ne fonctionne pas de cette manière-là. Il fonctionne en fonction d'algorithmes, de statistiques, d'une masse de données considérable. Et donc, à partir du moment où dans son fonctionnement même, il ne se réfère pas à une extériorité, alors il ne dit plus rien sur le monde. Et donc la question de la vérité, évidemment, va être bouleversée. Si ce langage ne porte plus sur le réel, comment on va pouvoir parler de vérité ?
Et c'est bien le paradoxe des IA, Stéphane, elles ne disent rien du monde.
Mais elles portent une vision du monde, car l'IA est tout sauf neutre.
Les algorithmes sont invisibles. Lorsque votre chat vous répond, vous avez l'impression que c'est une parole déliée de toute forme de biais. En l'occurrence, non, puisqu'il y a quand même une médiation technologique et des biais algorithmiques qui, eux, sont porteurs d'une certaine vision du monde. L'IA, de fait, représente aussi des valeurs culturelles. C'est pas la même en Chine, c'est pas la même aux États-Unis. Et nécessairement, produit des normes de façon absolument insidieuse. Elles produisent des effets de réel. Et ça, c'est l'un des grands dangers.
Et ce que nous dit la Mazarine Pinjot, ça nous a tout de suite fait penser à ce que nous a dit le PDG de Mistral, Arthur Mensch, au sommet de l'IA en Inde. Écoutez.
Le vrai risque de l'intelligence artificielle qui arrive là, c'est de l'influence massive sur la manière dont les gens pensent, sur la manière dont les gens votent.
L'écrivaine et l'ingénieur, les deux nous disent la même chose. Réaction de Mazarine Pinjot.
Oui, il a raison. C'est déjà le cas, non? L'élection de Trump, elle doit beaucoup aux IA et aux algorithmes. À partir du moment où le langage a du succès du seul fait des émotions qu'il va susciter, par définition, il n'a plus aucun lien avec une proposition, je sais pas, politique intéressante, un propos qui serait complexe sur l'état du monde aujourd'hui. Et donc, si le langage est préempté par des grandes entreprises qui voient un intérêt soit commercial, soit politique, ou se situe l'espace public où il pourrait y avoir un vrai débat démocratique.
Question vertigineuse à 14 mois de l'élection présidentielle française.
Et Stéphane, au-delà de l'IA, au-delà de la politique, pardon, l'IA s'immisce de plus en plus dans l'intime, on en parle beaucoup ici, les gens s'en servent de plus en plus comme d'un psy, notamment s'agissant de ChatGPT.
Et oui, et dans son roman, Le Salon de Massage, Mazarine Pinjot se demandait si on peut remplacer sa psychanalyse par un abonnement à un salon de massage. Alors je lui ai demandé si on pouvait remplacer son psy par ChatGPT.
Je pense que ça peut aider, hein. Je ne suis pas du tout technophobe. Si on a besoin d'élaborer une parole et qu'on n'arrive à la dire à vraiment à personne, ben, ça peut être un passage. Comme il n'a pas de corps, peut-être qu'il y a un effet désinhibiteur et donc on peut lui dire des choses qu'on dirait moins facilement à son psy. Mais évidemment que ça n'a absolument rien à voir avec une analyse dans laquelle il y a une situation de transfert. Et cette situation de transfert, elle n'est possible que parce que derrière, c'est un autre être humain. L'expérience de l'analyse, elle ne peut pas être déléguée à une non-relation à son IA générative.
Ça me donne envie de faire un blanc, en fait, derrière cette phrase-là. Et l'expérience de l'écrivain, Stéphane, peut-elle s'accommoder d'un échange avec une IA générative?
Vaste question, c'est ce que nous dit Alain Damasio, en tout cas, écrivain de science-fiction, passionné d'IA. C'était la semaine dernière, assez ce soir.
Moi, je commence à l'utiliser, même pour la création. Je suis sidéré de voir la capacité de création sur des univers imaginaires, sur des choses qui relèvent vraiment d'un travail de science-fiction et de fantasy. Et moi, sur mon artisanat propre, qui est celui de créer des univers imaginaires, des personnages, des trames narratives, je vois la chose arriver quasiment au même niveau que mon artisanat. Et je sais que ça va continuer à progresser. Donc on est face à une espèce de blessure narcissique très forte, quoi. On a une forme d'intelligence qui produit des textes qui sont au même niveau que les meilleurs experts de leur domaine.
Réaction de Mazarine Pinjot.
Ouais, c'est méga flippant. Bah, il a raison. Bien sûr, n'importe quelle intelligence artificielle générative peut produire un scénario, un livre, sans aucun problème. Après, il faut savoir le prompter, bien sûr. Et là, le prompt a peut-être encore une forme d'originalité, que tel personnage pense de telle manière et puis il se passe telle chose. Maintenant, moi, je continue de penser quand même que la capacité humaine d'aller produire quelque chose qui n'est pas demeure différente de celle de la machine, puisque la machine, par définition, ne peut faire que à partir de ce qui est. Mais il y a plein de livres, évidemment, où on ne verra pas la différence. Hein. Et peut-être que les grands, grands, grands auteurs, des gens comme Mauvigné, par exemple, continueront quand même d'avoir quelque chose autre.
Quelque chose autre, on l'espère.
Et elle, alors, Stéphane, est-ce qu'elle l'utilise pour reformuler une phrase, par exemple?
En tant qu'écrivaine, se sert-elle de l'IA comme Alain Damasio?
Jamais pour reformuler, parce que s'il y a bien un lieu où l'écrivain doit travailler, c'est la langue, c'est le style. C'est vraiment qu'il soit au plus proche d'une émotion, d'un ressenti. En revanche, non, je lui demande plutôt de me trouver des idées. C'est plus du côté du savoir. C'est plus comme si je lui demandais des fiches, quoi. C'est plus comme un assistant, un super assistant. Mais jamais pour reformuler.
Et vous, Fabienne, vous en servez comme un super assistant ou pour reformuler vos lancements?
Ben jamais, pas du tout ce réflexe, ni pour reformuler, ni pour faire des fiches. Mais en vous écoutant, Stéphane, je n'arrive plus à savoir aujourd'hui si je devrais ou pas. En fait.
Mais non, surtout pas.
Merci
surtout
beaucoup.
Pas.